pour suivre. Est clair. Il concluait généralement ainsi. Mais il ne faut pas remettre ces questions sur le tapis sans arrêt, ni en parler avec une telle véhémence. Oh, bien sûr, Clark savait se donner des airs progressistes. Il n'était pas aussi intraitable que Jean-Paul II. Quant à Juan Diego, au fil des années, il avait su lui aussi se montrer de mauvaise foi. Et il n'y était pas allé de main morte. Il avait bien souvent fait marcher Clark en lui citant Chesterton. Ce qui distingue une religion ouverte, c'est qu'on peut en plaisanter. Évidemment, Clark avait écarté cet argument d'un ricanement. Juan Diego regrettait d'avoir galvaudé une des prières favorites de son cher frère Pépé dans ses discussions avec Clark, même s'il était incapable de se reconnaître dans cette prière de Sainte Thérèse d'Avila, que Pépé avait fidèlement reprise dans ses oraisons quotidiennes. Des dévotions ineptes et des saints à face de carême, délivre-nous, Seigneur. Mais pourquoi se remémorer cette correspondance avec frère Pépé, comme si celui-ci venait de lui écrire? C'était des années auparavant, quand le père Alfonso et le père Octavio étaient morts dans leur sommeil, à quelques jours d'intervalle. Pépé avait été surpris que les deux vieux prêtres soient partis sur la pointe des pieds. Ces deux hommes tellement dogmatiques, tellement vindicatifs, comment avaient-ils pu mourir sans un dernier barreau d'honneur? Pépé avait trouvé tout aussi frustrante la façon dont Rivera s'était fait la belle. Depuis que l'ancienne décharge avait été déplacée et qu'on en avait aménagé une nouvelle, El Jefe n'était plus le même. Les 10 premières familles de la colonie de Guerrero étaient parties depuis longtemps. Ce qui avait été le coup de grâce, c'était l'interdiction de faire des feux dans la décharge. Comment pouvait-on interdire les feux? Ce serait quoi, une décharge qui ne brûlerait pas les déchets? Pépé avait insisté pour qu'El Jefe lui en dise plus. Il se fichait bien, lui, de l'interdiction des feux. Il était surtout préoccupé par l'ascendance paternelle de Juan Diego. À en croire une ouvrière qui travaillait sur le basurero, le patron de la décharge n'était pas le père du lecteur, mais c'était tout comme. Juan Diego lui-même avait toujours été persuadé qu'El Jefe n'était probablement pas son père. Mais Lupe avait dit « Rivera sait quelque chose, il le garde pour lui, c'est tout ». De fait, tout ce qu'il leur avait confié, c'était que le père le plus probable de Juan Diego était mort le cœur brisé. « Tu veux dire d'une crise cardiaque ?» avait alors demandé Juan Diego. C'était en effet ce qu'Esperanza prétendait. Si c'est le mot qui convient quand un cœur se brise pour toujours, s'était contenté de répondre Rivera. Mais frère Pépé avait fini par convaincre Rivera de lui en dire plus. Or, le patron de la décharge était bel et bien certain d'être le père biologique de Juan Diego. À l'époque de sa conception, Esperanza ne couchait avec personne d'autre à l'en croire. Mais elle lui avait opposé qu'il était bien trop stupide pour avoir engendré un génie comme le petit lecteur. Quand ce serait vrai, il ne faut pas que Juan Diego le sache, avait-elle exigé. S'il l'apprend, il va perdre toute confiance en lui. Voilà qui devait avoir fait disparaître le peu de confiance qu'El Jefe avait en lui. Rivera avait demandé à Pépé de ne pas en parler à Juan Diego, du moins d'attendre qu'il soit mort pour le lui dire. Qui sait si son cœur ne s'était pas brisé? Personne n'a jamais su où vivait réellement Rivera. Il était mort dans la cabine de son pick-up, où il avait toujours aimé dormir. Après la disparition de Diablo, son chien lui manquait et il dormait rarement ailleurs. El Jefe était parti sur la pointe des pieds, comme le frère Alfonso et le père Octavio, mais il avait eu le temps de se confesser à frère Pépé. La mort de Rivera et sa confession préalable constituaient une part essentielle de la correspondance de frère Pépé que Juan Diego devait revivre tant et tant de fois. Comment Pépé s'était-il arrangé pour vivre l'épilogue de sa propre vie aussi allègrement? S'était demandé Juan Diego. À l'Encantador, la nuit ne fut pas troublée par un cocorico intempestif. Juan Diego dormit d'un trait jusqu'au matin sans se soucier du karaoké du Beach Club. Aucune femme ne dormit à ses côtés, ni ne disparut. Mais au matin, à son réveil, il découvrit ce qui ressemblait à un titre de roman, écrit de sa propre main, sur un bloc-notes posé sur la table de nuit. « Le dernier acte », avait-il écrit sur le bloc. C'était la nuit où il avait rêvé de l'ultime orphelinat de Pépé. Celui-ci avait posé sa candidature à Hijos de la Luna, enfant de la Lune, peu après 2001. ses lettres étaient plus toniques que jamais, et il allait gaillardement sur ses 80 ans. L'orphelinat se trouvait à Guadalupe et Victoria, et accueillait les enfants des prostituées. Pepe expliquait que celles-ci étaient autorisées à visiter leurs enfants et même accueillies à bras ouverts. Juan Diego se souvenait qu'aux enfants perdus, les bonnes sœurs refusaient l'accès aux mères biologiques. C'était une des raisons pour lesquelles Esperanza, sa mère, n'avait jamais été la bienvenue chez les nonnes. Aux enfants de la Lune, les orphelins appelaient Pepe « papa ». Ils disaient que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ils faisaient de même avec les autres bénévoles de l'orphelinat. Notre cher Edward n'aurait pas vu d'un bon œil qu'on gare les motocyclettes dans la classe, avait-il écrit. Mais les motos disparaissent très vite si on les laisse dans la rue. Seigneur Eduardo les traitait d'engins de mort. Le docteur Vargas aurait trouvé à redire à la présence des chiens. Hijos de la Luna ne les empêchait pas d'entrer. Les enfants les aimaient. Il y avait un grand trampoline dans la cour. Les chiens n'avaient pas le droit de s'en approcher, avait indiqué Pepe. Et un immense grenadier. Les branches supérieures de l'arbre étaient festonnées de poupées de chiffon et autres jouets que les enfants avaient jetés en l'air et qui étaient restés accrochés aux branches. Les dortoirs des filles et ceux des garçons étaient situés dans des bâtiments séparés. Mais ils partageaient des vêtements qui constituaient une sorte de propriété commune. « Je ne conduis plus ma coccinelle Volkswagen », avait écrit Pepe. « Je ne tiens pas à tuer quelqu'un. J'ai une petite motocyclette qui ne va pas assez vite pour que je risque de faire du mal à qui que ce soit. » Ce fut sa dernière lettre. Elle allait faire partie du dernier acte dont Juan Diego avait écrit le titre dans son demi-sommeil. Le matin de son départ de l'Encantador, seul Consuelo et Pedro s'étaient levés pour lui dire au revoir. Il faisait encore nuit. Le conducteur de la voiture était ce garçon au visage farouche, le fou du klaxon qui paraissait trop jeune pour conduire, mais qui était meilleur au volant qu'au service. « Faites attention aux varans, mister !» lança Pedro. « Et marchez pas sur les oursins !» poursuivit Consuelo. Clark French avait laissé un mot à la réception de l'hôtel. Il avait dû trouver très drôle, pour lui tout au moins, d'écrire « Rendez-vous à Manille ». Durant tout le trajet jusqu'à l'aéroport de Tagbilaran City, Juan Diego n'eut pas l'occasion d'adresser la parole au jeune conducteur. Il se remémorait la lettre qu'il avait reçue de la directrice des Enfants de la Lune à Guadalupe et Victoria. Frère Pepe s'était tué sur sa petite motocyclette. Il avait fait une embardée pour éviter un chien et heurté un autobus de plein fouet. Il avait tous vos livres, ceux que vous lui aviez dédicacés. Il était si fier de vous, avait écrit la directrice. Elle avait signé sa lettre « Mama ». Juan Diego s'était demandé s'il n'y avait qu'une seule Mama aux enfants de la Lune, et de fait, il n'y en avait qu'une. Le docteur Vargas avait lui aussi écrit pour la circonstance. La directrice se nommait Coco, mais les enfants l'appelaient Mama. Pepe s'était trompé sur l'usage du vocable « papa », avait écrit Vargas. Il était un peu dur d'oreille, voilà pourquoi il n'a pas entendu l'autobus, avait-il conclu. Les enfants ne l'appelaient pas papa, il avait mal entendu. Il n'y avait qu'un seul homme que les enfants appelaient papa, à Hijos de la Luna. C'était le fils de Coco, le fils de Mama. On pouvait compter sur Vargas pour dissiper les illusions à coups de vérité scientifique. La route était bien longue jusqu'à Tagbilaran City. Et ce n'était que le début d'un long voyage. Juan Diego ne l'ignorait pas. Il avait devant lui deux avions et trois bateaux à prendre. Sans parler des varans et de dés. Chapitre 23. Ni animal, ni végétal, ni minéral. Le passé l'entourait comme des visages dans une foule, avait écrit Juan Diego. Ce lundi 3 janvier 2011, la jeune femme assise à côté de lui commençait à se faire du souci. Le vol Philippine Airlines 174 de Tagbilaran à Manille avait des airs de cacophonie aérienne malgré son départ matinal à 7h30.